Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on lise ensemble Genèse 1. Dans la mesure où on parle des fondements, on va partir dès le commencement. Genèse 1. C'est le livre des commencements. Et donc, pour parler des fondements bibliques de la louange, comme je le disais, partons du commencement. La Bible déclare ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les eaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Alléluia. Alléluia. J'ai tenu à ce qu'on lise ce passage, parce que c'est merveilleux de lire ce que Dieu a fait. C'est merveilleux de voir, de comprendre surtout ce qui s'est passé lors de la création. Parce que c'est facile aujourd'hui d'inventer des machines, mais on ne peut pas inventer un autre homme. Il n'y a que Dieu qui est capable de créer. Alléluia. Et je voulais qu'on lise ce passage tous ensemble pour admirer ce que Dieu a fait. Seulement pendant que Dieu est en train de faire toutes ces choses, il y a quelque chose qui se passait qui n'est pas mentionné dans Genèse. Et qui est par contre mentionné dans Job 38. Et là, j'aimerais qu'on le lise encore plus attentivement. Job 38, vous connaissez tous l'histoire de Job. Job 38, à partir du verset 1, la Bible déclare, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, et il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, s'interrompt comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alléluia! Je reprends ce verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans d'autres versions, on dit alors que les anges éclataient en chants d'allégresse et qu'ils poussaient des cris de joie. Et pour faire le parallèle donc avec Genèse 1er, la Bible déclare que pendant que le Seigneur était en train de créer les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et même l'homme, notre espèce, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Il y a une chorale céleste qui était en train de louer Dieu pour tout ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire que quand il disait que la lumière soit, et comme la Bible dit, la lumière fut, il y en a qui poussaient des cris de joie, alléluia, hosanna, gloire à Dieu, il est souverain. Pendant qu'il disait que pendant qu'il criait les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, il y en avait qui poussaient des cris de joie. En général, nous, les cris de joie, on connaît juste alléluia, hosanna, peut-être pas amen, mais comme ça. Mais je vous assure que quand j'imagine ça, je me dis, il y a des choses que même notre entendement ne peut pas réaliser qui se passaient en cet instant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tous les anges, comme la Bible dit, les anges l'adorent, ils étaient là en train de l'adorer. Certainement en train de crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». À chaque fois quand on voyait apparaître un oiseau, « Gloire à Dieu dans les cieux ». À chaque fois qu'on voyait sortir peut-être un éléphant, je sais pas, ils étaient en train de proclamer la grandeur, la majesté du roi. Alléluia. C'est pour dire, revenir simplement et dire, pour commencer, ce message que Dieu a créé la louange. La louange est dès le commencement, de même que le Seigneur est dès le commencement. Alléluia. Et donc, c'est pas nous les chantres qui avons inventé la louange. C'est pas les musiciens les plus talentueux ou les pasteurs les plus onctionnés, je dirais, qui ont inventé la louange dans leur église ou encore l'adoration. Non, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est digne de louange. Dès le commencement, la louange déjà accompagnait les œuvres qu'il avait faites, qu'il était en train de faire. Alléluia. Et seulement à cause de ça, je vous assure que même si on ne poursuit pas cet enseignement, on peut tout arrêter et dire, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important de savoir ces choses. C'est vraiment, vraiment important. Parce que c'est pas tout que de dire que on loue le Seigneur parce qu'on est chrétien. Non. Mais c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est très important. La Bible dit qu'elle est esprit et vie. C'est important de s'appuyer sur la parole et se dire, quand vous enseignez, hein, le peuple de Dieu, et vous dire que oui, venez, examinons la parole ensemble, et là, on se rend compte que pendant que le Seigneur créait le ciel et la terre, les animaux et tout ce qui renferme tous ces amas d'eau par-ci par-là, le Seigneur était en train de recevoir déjà la louange et l'adoration. Et comme on ne peut pas fixer l'âge du Seigneur, on ne peut pas fixer, hein, l'âge de la louange. C'est extraordinaire. C'est le ministère qui est dès le commencement. C'est hyper important. Et tout au long de la parole de Dieu, on peut voir les différentes dimensions de la louange et l'adoration. On peut voir l'organisation de son ministère. Et le livre de Chroniques, c'est vraiment important. Je vous encourage à lire ce livre. Ces deux livres, tout entier, 1 et 2 Chroniques. On va prendre, nous, pour ce soir uniquement, juste le chapitre 16 de 1 Chroniques. C'est le livre un peu dans la parole de Dieu qui nous montre comment la louange était organisée dans l'ancienne alliance. C'est vrai, c'est Dieu a communiqué ce ministère aux hommes. Les anges ont commencé à remplir ce ministère dans les cieux, mais le Seigneur l'a communiqué à l'homme. Et un homme s'est levé un jour rempli de joie, de zèle pour le Seigneur. Et il a décidé d'organiser ce ministère, tellement il s'est rendu compte que c'était important. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce que David a fait. Après que l'arche de l'Alliance a été ramenée au milieu du peuple de Dieu, 1 Chronique chapitre 16, la Bible déclare, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer le nom du Seigneur, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Le roi David, quand il réalise que c'est tellement important de rendre à Dieu un culte, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente devant son peuple avant de mettre en place des lévites, des chantres qui pourraient remplir par la suite ce ministère. Il montre un exemple. Il se met devant le peuple du Seigneur. La Bible nous dit qu'il offre des sacrifices, il offre des holocaustes au Dieu d'Israël, et par la suite, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Et plus loin, la Bible nous dit qu'il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. 1. D'invoquer. 2. De louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. D'abord d'invoquer, parce que Dieu n'était pas en permanence au milieu de son peuple. Alors il fallait invoquer. C'est comme si l'épouse du pasteur André Larue n'est pas dans la salle et nous on l'appelle tous en cœur. Chantal, Chantal, jusqu'à ce qu'elle arrive. Et quand elle est arrivée, maintenant on lui dit, oh tu es merveilleuse, tu es formidable. C'est ce qui se passait avec le peuple de Dieu. C'était graduel. D'abord on invoque le Seigneur, parce qu'il n'était pas toujours là. Et quand il descend au milieu de son peuple, le peuple d'Israël, d'un commun accord avec les Lévites qui étaient instaurés, il commence à louer Dieu. a célébré la présence de Dieu, a célébré les hauts faits de l'Éternel. Et la Bible nous cite le nombre considérable de personnes qui étaient chargées de faire ce service. Et quand on termine de lire ce passage, je vous assure, c'est impressionnant. Si on compte ces personnes, aujourd'hui, on se dirait que dans nos églises, vraiment, il y aurait au moins 300 personnes, c'est-à-dire d'abord les chantres et les musiciens. Au moins 300. Le reste, c'est le peuple. Donc, on ferait des assemblées de milliers de personnes. Tellement c'était important. Il y a au moins 300 personnes qui étaient en place pour faire ce service. Et la Bible dit que c'était jour et nuit. C'était, il fallait se relayer. Et pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, il y a des lévites en fait qui étaient là chargés en fait avec des fouets. Quand il y avait des lévites qui somnolaient, on leur donnait un petit coup de fouet pour qu'ils se réveillent. Il ne fallait pas dormir. Je ne sais pas si franchement, comment imaginer une telle chose. Aujourd'hui, on va se dire qu'on reste à l'église, on loue le Seigneur 24 heures sur 24 sans dormir. De temps en temps, je dirais que Seigneur, permets-nous quand même de boire du café. Parce que là, je ne sais pas. Parce que le fouet, ça devait être trop dur quand même. Mais tellement c'était important, je suis sûre. Quand on voit les chapitres considérables qui sont en fait écrits sur ce ministère, on se rend compte que c'était tellement important. Et il fallait qu'il soit là, marqué dans la Bible pour nous servir d'exemple. Alléluia. Et quand vous lisez les psaumes, en fait, c'est tout ce qui se passait là dans cette histoire avec pendant tout ce qui se passait là autour de la tombe de David, dans les chroniques, vous retrouvez ça dans les psaumes parce que je crois qu'ils ont voulu mettre à part les psaumes parce qu'il y avait des copistes qui étaient là. À chaque fois l'Éternel se manifestait, il y avait des cris de joie, il y avait des battements des mains, il y avait des tambourins que les femmes faisaient retentir, il y avait les mains levées vers le ciel, il y avait des chants qui montaient, des instruments de musique, des sacrificateurs, il y avait toutes sortes d'expressions de louange, assis, debout, mais je ne pense pas, la Bible ne fait pas mention de quelqu'un qui était assis. Tout le monde était debout, tellement on rendait un hommage au Dieu d'Israël. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte, c'est vrai, comme on le disait au départ, la louange a un caractère céleste. Et les choses qui viennent d'en haut, la Bible nous demande d'aspirer, hein, aspirer aux choses d'en haut, parce que c'est important. Pour faire descendre ça sur la terre, pour que son règne arrive. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on continue juste au verset 8. J'aimerais qu'on voit ensemble ce qui se passait dans ces temps de louange. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtilla des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Alléluia. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Alléluia. J'aime bien cette version, parce qu'il y a des passages qui disent « L'Éternel est grand et digne de louange. » Et c'est bien de revenir souvent à l'origine. Et là, le peuple d'Israël pouvait se dire « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. » Alléluia. Il est très digne de louange. pour parler du caractère de la louange. Comme je pouvais le dire, on parle de la dimension, des dimensions de la louange et de son organisation. Je disais tout à l'heure que la louange a une dimension céleste. Parce que Dieu est dans le ciel. La Bible dit que notre Dieu vit dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Et la louange a une dimension céleste. Et comme on peut le voir dans Job, les anges louaient le Seigneur. Et comme on peut le voir aussi dans le passage de Luc 2, on va le lire ensemble rapidement. Luc 2, le verset 13, les versets 13 et 14, il s'agit de la naissance de Jésus. Dans Genèse, il s'agissait de la création. Et là, dans Luc 2, c'est la naissance de Jésus. Et là, on peut voir encore les mages qui se mettent à la recherche du Seigneur. Et là, tout à coup, il y a un ange qui vient. Et le verset 10 déjà dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la maison, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. C'est toujours pour revenir à cette dimension céleste de la louange. Là, ce sont les anges qui se joignent à cet ange qui vient d'annoncer cette bonne nouvelle. Et il crie, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Et quand on voit encore dans le passage des chroniques, en dehors du caractère céleste de la louange, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passait. Pendant qu'il y avait cette expression, cette forte onction de louange, dans 1 Chronique 25, au verset 1, la Bible déclare « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Eman et de Yedutum, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. » Et là, ils se mettent à citer mais un nombre inconsidérable de personnes. Et la Bible déclare au verset 5, « Tous fils d'Eman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Eman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. » Il y a une dimension prophétique. Lorsqu'on se met à louer le Seigneur, à adorer notre Dieu, il est normal que l'onction prophétique soit libérée. Normalement, quand on loue le Seigneur, quand on passe des temps d'adoration, normalement, tout le temps, il faudrait qu'il y ait des paroles prophétiques. Ça devrait se passer comme ça. Simplement parce que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Et parce qu'il est présent, il nous communique les grâces d'en haut. Il nous communique la vision de Dieu pour le moment, pour l'église, pour le pays. C'est là, dans ces temps de louange et d'adoration, parce que nous sommes en contact avec le cœur du Père. Alléluia. Alléluia. Il prophétisait en s'accompagnant de la musique. Et tout ceci se faisait dans un ordre. Un ordre. Comme on l'a lu dans ce passage de 1 Chronique 25, si vous remarquez bien, à chaque fois, ce sont des chefs de famille. Sur les chantres était établi un chef de famille. Celui qui était appelé chef des chantres, c'était le chef d'une famille. Il y avait plusieurs familles au niveau des Lévites. Et là, sur chaque famille était établi un chef. Et tout se passait sous l'ordre de ce chef qui était, lui, soumis au roi. Et ça, c'est vraiment important dans l'église aujourd'hui. En général, les chantres, quand on est en plein exercice, le pasteur doit bientôt prêcher, on est tellement lancé dans notre histoire. Le pasteur est déjà debout avec sa Bible en main. On se dit que non, il n'est pas sensible à l'esprit. On est tellement concentré, on aime tellement remplir notre ministère, c'est vrai, avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de joie, d'expression profonde de notre cœur. Mais la Bible déclare aussi que ces chantres et musiciens étaient soumis à quelqu'un. Et pour revenir sur les chantres, la vision dans un ministère de louange, La vision du groupe de louanges, elle dépend de la vision de l'église. C'est pas aujourd'hui le chef de chant qui décide que bon, en fait, l'église est, dans sa vision, c'est prêcher l'évangile, concentrer sur prêcher l'évangile. Moi, dans ma vision, en fait, moi, en tant que responsable de chantre, Dieu m'a dit que moi, je dois en fait créer simplement un groupe de louanges et nous, on doit toujours sortir pour faire des concerts dans tel aspect. Non, les chants sont là pour équiper le ministère pastoral. Ils sont là pour aider le ministère pastoral. Les chantres sont des responsables dans une église. C'est quelque chose de tellement important à réaliser. Souvent, on ne se rend pas compte. On est tellement spirituel qu'on se dit que non, moi, le Seigneur me parle. Je suis quand même adorateur. La Bible déclare que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et moi, Dieu me parle. C'est vrai, Dieu nous parle. Mais il faudrait qu'on soit soumis à l'autorité pastorale. C'est seulement là que notre ministère pourra réellement se développer. Parce que c'est lui qui est garant de la vision dans l'église. C'est lui que Dieu a envoyé. Et nous, quand on vient, on se met sous la couverture pastorale. Maintenant, si votre pasteur déraille, alors là, arrangez-vous avec le Seigneur. Ça, c'est autre chose. Mais c'est important de respecter cet ordre. Et je vous assure que si tous les chantres dans l'église... L'église, je mets vraiment grand E, tous les chantres. Si vraiment se met sous l'autorité pastorale, je vous assure que notre ministère va connaître une grande éclosion. C'est pourquoi il faut toujours prier pour votre pasteur, afin qu'il demeure dans la présence de Dieu. Parce que ça ne vous ferait que du bien. Qu'il soit toujours connecté au Seigneur. Parce que l'éclosion de votre ministère dépend de son éclosion à lui. Alléluia. C'est hyper important. Dans 1 Chronique 15, la Bible dit que Kenania dirige la musique parce qu'il était habile. Et il n'y a pas d'improvisation, mais une direction. Quand je parle d'improvisation, c'est par rapport à la direction. On peut faire de l'improvisation dans nos temps de louange et d'adoration sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça, c'est important parce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. On le verra quand on parlera de la direction de la louange. Ça, 1 Chronique 15, verset 22. 1 Chronique 15, 22. Et dans 1 Chronique 6, 31 à 32, la Bible déclare que ceux que David avait établis remplissaient les fonctions de chantre d'après la règle qui leur était prescrite. Pardon. Ça veut dire qu'ils étaient là tous en train d'attendre. Bon, le roi a établi les chantres, oui. Maintenant, chaque chantre remplissait des fonctions parce qu'il ne faisait pas que chanter. Hein? Là encore, je n'ai pas envie de m'attarder parce qu'on verra vraiment le ministère du chantre. Il ne se limite pas à la musique, au chant. Non, ça va plus loin que ça. Et donc, ils étaient établis dans leurs fonctions sous la direction, d'après la règle qui leur avait été prescrite. C'est pas qu'ils faisaient des choses qu'on ne leur demandait pas. Non, à chaque fois, ils se référaient à ce que le roi avait établi. Et c'est pareil pour revenir au pasteur. Les limites dans notre exercice de ministère, c'est le pasteur qui régit ça. C'est l'église, vous êtes sous l'autorité de l'église, vous n'êtes pas en train de monter un groupe, parce que les chantres, je vous assure que c'est très facile de se mettre en valeur, simplement parce qu'on est sur l'estrade déjà, donc on n'est pas assis, donc c'est comme si on a une promotion par rapport à ceux qui sont là assis, donc c'est très facile vraiment de dérailler, c'est facile, dès qu'on a le micro, je vous assure qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, quand je conduis la louange, quand je dis aux gens, levez la main droite, ils lèvent. Pourquoi? Parce que je suis devant et ils respectent la personne qui est devant. Donc, c'est important de faire attention à ce qu'on fait. Vraiment important. C'est important de connaître la vision du ministère dans lequel on travaille. Mais vraiment la connaître à fond. Pas se dire que oui, notre église, nous en fait, on fait l'évangélisation. Notre but, c'est vraiment embraser bègle. Oui, mais embraser bègle, mais comment? Est-ce que tu connais dans quelles conditions ton pasteur a reçu sa vision? Est-ce que tu sais ce qu'il a vécu lorsque le Seigneur l'a appelé? C'est important parce que vous portez l'onction, vous portez la vision du pasteur et vous devez être les premiers à défendre cette vision. Vous devez être les premiers à expliquer cette vision au peuple, à ne pas balbutier quand quelqu'un dans l'assemblée vous demande c'est quoi la vision de l'église. Vous n'êtes pas là à balbutier en vous disant « en fait, je vais t'expliquer ça dimanche prochain ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Sur le champ, vous êtes capable, il faudrait que vous soyez capable de répondre. de répandre, que nous, notre vision, oui, c'est prêcher l'évangile, mais nous, le Seigneur nous a donné quelque chose de spécifique, c'est tel aspect. Ah ouais, oui, c'est ça. Donc, comment vous faites pour mettre en œuvre cette vision? Eh bien, voilà les points précis sur lesquels on travaille. C'est important, important de connaître ça. Parce que ce qui se passe, c'est que quand le pasteur, toujours dans le bain de sa vision, le Seigneur lui donne une démarche à suivre, je vous assure, c'est vraiment important. Quand on n'est pas connecté, c'est facile d'entraîner tout un peuple. C'est très facile. Et je vous assure que les chantres, pour travailler la résonance d'un chant, la résonance, c'est la capacité à ce que quelqu'un dans l'assemblée, en fait, approuve votre ministère de chantre. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'agréable, les gens vous apprécient, c'est ça, travailler la résonance. Vous êtes aimable, vous ne faites pas que chanter, non, vous prêtez attention aux gens. Et ça, je vous assure, quand vous n'êtes pas d'accord avec la vision du pasteur, c'est très facile d'entraîner le peuple. Parce que dès qu'il y a deux qui sont pour moi, je commence à leur dire que, mais en fait, le pasteur, c'est vrai la vision, mais au départ, pourtant, c'était comme ça. Bon, je sais pas, je comprends pas là où il nous amène, là. Et ça, je vous dis, le peuple écoute beaucoup les chantres. Parce qu'ils vous respectent. Parce qu'ils se disent que s'ils sont sur l'estrade, c'est que vraiment ils ont quelque chose de particulier. Et donc, c'est hyper important. Et ça, vraiment, je vous encourage vivement. La Bible déclare que ces chantres étaient sous la direction de leur père. Et leur père eux-mêmes étaient sous la direction du roi. Ils étaient gérés par le roi. Et c'est important. De même que le Seigneur vous a établi sous un responsable de chantre, pour ceux qui exercent, c'est important de prier pour ce responsable de chantre et de venir à côté du responsable de chantre et lui demander, est-ce que tu maîtrises bien la vision de l'église? Et j'aimerais que de temps en temps, tu rappelles cette vision quand même au niveau du groupe de chantre. C'est important de le faire. C'est important. C'est important de prier, prier pour cette vision, prier afin que le Seigneur envoie des gens dans la vision pour porter cette vision, pour qu'elle aille jusqu'à son terme. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lire, quelqu'un peut lire 1 Chronique 25, le verset 3, encore une fois. 1 Chronique 25, verset 3. Alléluia. Sous la direction de leur père. Amen. Sous la direction de leur père. Et ces chantres-là, ce n'est pas des gens qui étaient choisis comme ça, au hasard. Quand vous faites une étude approfondie de ce livre de chroniques, vous vous rendez compte que parmi ces chantres, il y en avait qui étaient nommés par le roi. Ils étaient nommés pour être établis sur leurs frères chantres, pour être justement ses chefs, ses responsables. Et c'était des gens consacrés au Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient exempts de toute autre fonction. Ils ne faisaient plus rien d'autre. Ils étaient des chantres consacrés. Ils avaient des fonctions bien précises. Et je vais lire dans 1 Chronique 9, au verset 33, la Bible déclare, ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempt des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération, ils habitaient à Jérusalem. Vous savez, en général, quand vous lisez la Bible, il n'y a rien qui est écrit au hasard. C'est pas pour rien que la Bible a mis comme ça qu'ils habitaient à Jérusalem. C'est pas juste pour remplir les pages et tout, que non, c'est sûr, comme on doit couper, hein, faut pas que les gens se retrouvent avec un livre. Non, c'est pas juste pour ça. Ils habitaient à Jérusalem. C'est-à-dire que quand la trompette sonnait, quand on commençait à dénombrer les gens, on commençait par les chantres. On commençait par les lévites. Il y en avait qui étaient là en permanence et en permanence là autour de la tente. Il y en avait qui étaient logés à Jérusalem. Ils n'avaient pas le droit de dire que bon, j'ai la famille quelque part à Hébron, hein, au roi, je reviens dans deux semaines. Non, ça ne se passait pas comme ça. Non, ça ne se passait pas comme ça. Ça pourrait peut-être sembler bizarre, mais je vous assure que même en tant que chantre ou même chrétien, à chaque fois qu'on prend nos vacances, c'est important de le signaler au pasteur. C'est important. La Bible dit qu'il est le gardien de nos âmes. Le gardien. Et donc, pour enlever simplement d'abord la fonction, hein, il est le gardien de nos âmes. Donc, quand on veut prendre des vacances, moi, en tant que chanteur, il faut que je m'assure qu'en partant, je sais qu'il y a un chanteur qui reste. Il faut que je sois sûr qu'il y a un musicien qui reste. Qu'on ne se retrouve pas dimanche, hein, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de musicien. Non. Je me dis non, je vais me déplacer. Seigneur, bon, là je dois aller à tel endroit, il faut quand même que je me rende compte s'il faut que je parte ou pas. Bon, dans ma tête, je commence à voir, bon, il y a telle personne qui chante, qui travaille avec moi, tel musicien. Il faut que je me rassure qu'en partant, il y a quelqu'un derrière qui maintient en quelque sorte la présence de Dieu dans son temple. C'est important. C'est pas bien quand l'église se retrouve comme ça, on ne sait pas où sont passés les musiciens. Ils débarquent, le peuple débarque dimanche matin. Oh, Nina est partie, Victor a disparu, on ne sait plus, Sabrina, Alice, mais vraiment. Voilà le pasteur qui est là, il chante, il fait les annonces, il prie pour les gens, il exerce son ministère. Je vous assure qu'un culte comme ça, au bout du culte, hein, quand ils reviennent des vacances, là, je leur demande de s'asseoir d'abord pour voir un peu ce que ça fait quand on est assis de l'autre côté. Non, c'est juste pour vous dire que prenons à cœur ce qu'on fait. C'est important. C'est important. Et prendre à cœur, c'est se dire que moi, je vais me déplacer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste pour le ministère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste pour soutenir le pasteur derrière en tant que chantre? Et ces lévites et ces chantres, c'était des gens non seulement consacrés, mais ils étaient là pour enseigner le peuple, nous dit la Bible, dans 2 Chroniques 35. 2 Chroniques 35, verset 3. La Bible déclare ceci. Il dit aux lévites, c'est le roi Josias qui parle, il dit aux lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. La Bible mentionne le caractère des lévites, des chantres. C'était des gens consacrés. Mais non seulement ils étaient consacrés, mais ils enseignaient tout le peuple, nous dit la Bible. Donc pendant ces temps-là de louange et d'adoration, il y avait des temps d'enseignement. C'est pourquoi j'encourage souvent les chantres à exceller dans le ministère, à chercher, à aller plus loin, faire des études, lire ceux qui ont écrit sur ce ministère et plonger, vraiment se plonger dans les Écritures et toujours rechercher. Parce qu'il y a un peuple qu'on a enseigné. Il faut éduquer le peuple de Dieu. Vous savez, il y a, comme je parlais tout à l'heure des expressions de louange, il y a des gens qui ont du mal à battre des mains pendant des temps de louange. Il y a des gens qui ont du mal à pousser des cris de joie, mais ils ont besoin d'être enseignés. Faut pas qu'ils se disent que non, on est venu ce matin pour les embêter, pour en fait les réveiller. Non, c'est pas une façon de les réveiller. C'est une expression de louange. Et dans ces expressions, il y a battre des mains, il y a pousser des cris de joie, il y a danser pour le Seigneur. Il y a se prosterner. Et il faut que le peuple soit enseigné. Ce sont les chantres qui sont censés enseigner le peuple. Parce que c'est leur ministère. Ce sont les gens qui sont censés maîtriser ça et ils communiquent ça au peuple. Il faut avoir dans l'église comme ça des temps d'enseignement. Un dimanche, il faut demander au pasteur de prêcher sur la louange. Des temps de séminaire, pas seulement avec quelqu'un d'externe, mais que des chantres dans les églises s'organisent pour enseigner le peuple. C'est important. Parce qu'il y a des dimanches, vous dites qu'un coup ça se passe bien, un autre coup, la louange est difficile. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Ils se disent que comme je suis en forme ce matin, je vais pousser des cris de joie. Comme je suis en forme, je vais danser. Non, ça ne dépend pas de notre forme. La Bible nous dit que ce sont des expressions de louange. Donc dans notre louange, il doit y avoir des battements des mains, des cris de joie. Les gens doivent se prosterner en pleine adoration. On n'a pas besoin de leur dire « prosternons-nous devant le Seigneur parce qu'il est présent ». Non, ce sont des choses qu'ils doivent savoir. Que Dieu est digne, tellement il est saint. On ne peut plus résister dans sa présence, tellement. Et on s'agenouille devant lui pour lui rendre hommage. Alléluia. C'est important. Et ça, c'est le rôle des chantres d'enseigner le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour parler d'un dernier caractère de la louange, deux derniers caractères, c'est dans Hébreux 13, verset 15, la Bible nous dit « Offrons sans cesse à Dieu ». Ça, c'est un passage qu'on aime bien. Hébreux 13, verset 15. En général, les chantres, quand ils commencent la louange le matin, pour encourager les gens, pour convaincre les gens, je dirais. On vient, on lit ce passage. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Simplement pour parler du caractère perpétuel de la louange. Perpétuel. Chaque jour, tous les jours que Dieu fait, La Bible dit offrons sans cesse et sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Alléluia. Alléluia. Et c'est tous les peuples de la terre qui doivent rendre la louange au Seigneur. Le psaume 67 dit « Tous les peuples te célèbrent ». Donc la louange, c'est pas réservé à une église, à une ville. Non, c'est tous les peuples de la terre qui célèbrent le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ça les fondements bibliques de la louange. C'est tous les peuples de la terre qui célèbrent le nom du Seigneur, qui célèbrent la gloire de Dieu. Et pour terminer cette partie, j'aimerais lire un passage dans le psaume 33, au verset 1. La Bible déclare « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. » Psaume 33, verset 1. « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. » Il y a d'autres versions qui disent « La louange convient aux hommes droits. » Et souvent, j'aime prendre l'image, quand je parle de ce passage, j'aime prendre l'image des vêtements. Je dis souvent, quand on met un vêtement qui est peut-être trop large pour nous, il y a quelqu'un en face qui nous dit que non, il ne te convient pas. Et c'est pareil. La louange, la Bible déclare qu'elle convient aux hommes droits. Pas que ce sont les hommes droits qui louent le Seigneur, non. C'est pas dans ce sens. La louange convient aux hommes droits, c'est-à-dire que vraiment, quand tu regardes un homme droit, tu vois de la louange qui sort. Tu as envie de louer le Seigneur. Parce que sa vie est un culte. Sa vie est une adoration au Seigneur. Et ça, ça convient. C'est comme le vêtement, ça convient aux hommes droits. Ce sont les hommes droits qui louent le Seigneur, c'est vrai. Mais la louange doit nous convenir. C'est-à-dire qu'on doit marcher dans une vie de sainteté. De sainteté chaque jour. Et la Bible déclare que c'est la génération des hommes droits qui sera bénie. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. C'est ça les fondements bibliques de la louange. Les fondements bibliques de la louange. Et quand je préparais ce thème, je me disais, il faut quand même citer des raisons de louer le Seigneur. Mais il y en a tellement les raisons. Vraiment, il y en a tellement. Si j'oublie tout, je dis Seigneur, je te loue pour moi-même, vraiment. Je suis une créature si merveilleuse, dit la Bible. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Si vous oubliez tout, pensez à vous-même. Vous êtes des créatures merveilleuses, faites à l'image du Dieu vivant d'Israël. Alléluia. Et louez le Seigneur pour vous-même. C'est une raison de louer le Seigneur. Il nous a fait. Alléluia. Nous sommes des sources de bénédictions. Je ne dis pas des bénédictions, mais des sources de bénédictions. La source, ça ne tarit pas. Nous sommes des sources de bénédiction et nous pouvons louer le Seigneur pour nous-mêmes et pour nos frères. Alléluia. Et les psaumes sont vraiment le reflet de l'adoration quotidienne, de la vie quotidienne de l'adoration. Et pour ne pas parler en détail des psaumes, dans les psaumes vous trouvez des hymnes composés en vue de l'adoration collective ou encore l'adoration individuelle. Vous trouvez des lamentations collectives. Vous trouvez les psaumes royaux qui concernent qui concentrent leur attention sur le roi d'Israël, sur le serviteur de l'Éternel. Vous trouvez les chants individuels d'action de grâce, des expressions de reconnaissance. Alléluia. Et je crois vraiment que s'il nous manque encore des sujets de louer le Seigneur, on ouvre simplement la Bible, on lit les psaumes. Je vous assure que là, c'est vraiment un bon coup de pouce là. Hein? On loue le Seigneur pour tout ce qui est écrit. Hein? Même si on lit, oh, il a sorti le peuple d'Israël, hein? Il a fait traverser la mer rouge. Oui, louons le Seigneur pour ça. C'est un sujet de joie. Hein? Parce que c'est tout un processus qui aujourd'hui a amené Jésus. Alléluia. Donc c'est important. Et dans les psaumes, il y a deux dimensions de la louange qui ressortent. Donc c'est la louange communautaire, tous ensemble. Hein, tous ensemble, on loue le Seigneur. Tous ensemble d'un commun accord. Mais il y a aussi cet aspect de louange individuelle. Je dis souvent aux gens, et surtout en particulier aux chantres, c'est que le vrai chantre, c'est celui qui est capable d'adorer le Seigneur à la douche ou aux toilettes. Surtout là, parce que vous savez, c'est très facile avec les instruments de louer le Seigneur. Il est merveilleux, c'est bon et tout. Il y a la fête là, tout le monde est content. Il y en a qui sautent par-ci, par-là. Non, ça c'est très facile. Mais c'est bien de louer le Seigneur quand on est tout seul. Surtout quand ça ne va pas là. Hein? Quand les temps sont difficiles. Souvent je dis aux gens que la plupart du temps où, quand j'ai commencé à exercer mon ministère, c'est surtout dans les temps difficiles que j'étais vraiment convaincue que c'était mon ministère. C'est surtout dans ces temps-là que j'étais convaincue que oui, c'est mon ministère. Parce que c'était vraiment dans ces moments-là que j'avais vraiment une réelle adoration. Que je vivais vraiment des temps forts de louange et d'adoration. Je ne vous dis pas d'attendre les soucis pour louer le Seigneur, non. Non, c'est juste pour vous encourager à ce que la louange soit vraiment un style de vie. Que ça fasse partie de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est grand, notre Jésus. Gloire à Dieu. Et j'aimerais qu'on retienne quatre raisons essentielles d'exprimer notre louange. C'est dans 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9, la Bible déclare, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Quatre raisons essentielles de louer le Seigneur. Quatre raisons essentielles de rendre grâce à Dieu. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus. Alléluia. Pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que quand on étudie un peu la louange dans l'ancienne alliance, l'ancienne alliance met l'accent sur ce qu'on appelle la louange, c'est-à-dire l'expression de joie, les lamentations même, les prières, les psaumes, l'expression de louange, battement des mains, etc., l'expression de joie. Et le Nouveau Testament, par contre, quand on regarde un peu la Nouvelle Alliance, on met plus l'accent, le Seigneur met plus l'accent sur l'adoration. Mais précisément le cœur, l'attitude du cœur. Quand on regarde la louange, comment elle était faite, on se rend compte que dans l'ancienne alliance, c'est vraiment le côté organisationnel qui est mis en évidence. Comment c'était fait, le sérieux avec lequel il fallait le faire et tout ça. Mais vraiment, c'était rigoureux. Il n'y avait pas à se dire que aujourd'hui je vais venir à la répétition, demain je ne viens pas, ou bien aujourd'hui je vais louer le Seigneur, demain si ça me plaît, je le fais, sinon, en tout cas, je n'ai de compte à rendre à personne. Non, ça ne se passait pas comme ça. Dans l'ancienne alliance, vraiment, on leur montrait qu'ils n'avaient pas le choix. Et on leur montrait non seulement ça, mais on leur disait comment ils devaient le faire. Donc, ce n'était pas une affaire que moi, en fait, moi, mon instrument, je pense que dans tel champ, hein, on peut faire comme ça. Non, 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 non. Il y avait un chef qui était là établi. Et celui qui maîtrisait tout ce qui se passait. Et tout se passait sous son contrôle. Et Dieu met l'accent dans l'ancienne alliance, donc, sur l'aspect organisationnel de la louange. Et le Nouveau Testament, on se rend compte que Dieu parle plus du cœur, l'attitude du cœur, de l'adoration. Comment on doit adorer le Seigneur? La Bible dit que aujourd'hui, Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et quand vous lisez 1 Thessaloniciens, vous vous rendez compte comment à chaque fois, hein, on revient sur les actions de grâce, abonder en actions de grâce. À chaque fois, le Seigneur recherche l'attitude du cœur. Et souvent, quand on se rend compte finalement, mais le Seigneur ne cherche pas l'adoration. Parce que depuis les temps, il reçoit l'adoration des anges. Non, aujourd'hui, il cherche des adorateurs. Il ne cherche plus l'adoration. Il en a tellement dans le ciel. Aujourd'hui, si on se tait, la Bible déclare même que les pierres sont capables de l'adorer. Les pierres sont capables de crier. C'est-à-dire que Dieu ne cherche pas, mais il cherche des adorateurs. Des hommes et des femmes qu'il adore en esprit et en vérité. C'est aujourd'hui, chacun doit faire un choix. Décider d'être un adorateur. Décider, se dire, Seigneur, bon, ça suffit. Souvent, je me suis dit que c'est un coup, j'adore le Seigneur, un coup, non. Non, ce sont des temps à mettre à part, à la maison, en communauté. Se dire qu'aujourd'hui, je vais adorer le Seigneur, mais comme jamais je ne l'ai fait. À chaque fois qu'on conduit la louange avec les chants, on se dit souvent, on n'est pas là pour comparer les cultes, mais ce qu'on sait, c'est que ça doit être meilleur que le dernier culte. Parce qu'on veut aller de gloire en gloire avec notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est important, hyper important. La Bible déclare dans Éphésiens 1, donc pour voir un peu la louange, l'adoration dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 1, la Bible déclare que nous avons été créés pour servir à la louange de sa gloire. Et c'est comme si aussi, Jésus, quand il s'est adressé au peuple, il disait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et là, la Nouvelle Alliance nous ramène aussi à considérer ce qui se passait. Pourquoi on a été créé? Que l'on revienne au commencement. C'était pour servir à la louange de sa gloire. C'était pour dominer. Et dominer, c'était quand le Seigneur demandait à l'homme de dominer, c'était simplement, il voulait à travers l'homme manifester son autorité à lui. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été créés pour servir à la louange de sa gloire. Et là, nous revenons rapidement dans Genèse et on se rend compte que oui, quand il a créé les oiseaux du ciel, hein, les poissons de la mer et tout ça, c'est pas à eux qu'il a demandé de dominer, non. Au contraire, c'est à nous qu'il a demandé de dominer sur toute espèce. Et donc, c'est nous qui devions manifester sa gloire, manifester son autorité, appeler le règne du Seigneur. C'est nous, c'est pas les poissons, c'est à nous que le Seigneur a réservé cela. Alléluia. Dans Éphésiens 5, la Bible dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, hein, sous l'inspiration donc du Saint-Esprit. » Toujours pour comparer la Nouvelle Alliance à l'Ancienne, ce passage parle des psaumes, des hymnes, des cantiques. On retrouve tout ça dans l'Ancienne Alliance. Mais là, le plus, c'est que c'est des cantiques spirituels en bonus. Et là, il y a la présence du Saint-Esprit. C'est ça la différence avec les anciens. Nos anciens, ils suivaient en fait le voyant, qui après a été appelé le prophète. Et il suivait la direction du prophète. Il suivait la direction des pères. Aujourd'hui, Dieu, en bonus, nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, hein, quand nous passons des temps de louange et adoration, le Saint-Esprit nous conduit à exprimer, hein. Il y a des choses parfois qu'on n'arrive pas à exprimer, mais le Saint-Esprit nous donne la capacité d'exprimer notre adoration au Seigneur. Que ça soit en langue, même par l'intelligence, parfois dans des temps d'adoration, on se rend compte que, mais vraiment, en temps normal, je ne parle pas comme ça. Hein? Parce que le Saint-Esprit nous transporte. Hein? Nous sommes transportés, des transports d'allégresse. Nous sommes transportés. Et comme la Bible dit, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et Christ, c'est la personne divine. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. C'est ça le bonus, le Saint-Esprit qui nous dirige. Alléluia. Colossiens 2:7, abondé en actions de grâce. C'est la dimension cette fois-ci de la reconnaissance. Quand on voit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a vraiment toutes les raisons d'abonder en actions de grâce. Vous savez, il était arrivé à un moment donné quand j'étais au Maroc, je travaillais avec des chrétiens marocains et c'était tellement difficile. Les autorités avaient découvert ce que je faisais. Et là, un soir comme ça, je reçois un coup de fil anonyme. Allô Nina? Je dis oui. Tranquille, en paix, hein? Oui, oui, allô. Ah, c'est toi Nina? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi Nina? Ah, je commençais à flipper, je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne raccroche. Et j'ai reçu mon courrier déchiré, tout était inspecté et tout. Et le soir, je vous assure, il y a eu des moments, je marchais avec la sœur Emna, pour ceux qui la connaissent. Quelqu'un apparaît comme ça de nulle part avec un bâton et il frappe sur mon sac. Tout à coup, on panique, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait tellement de choses bizarres. Et là, quand je rentrais le soir, je vous assure, pour passer vraiment les détails, je vous assure, à chaque fois que je rentrais le soir, je me disais, Seigneur, vraiment, merci. Merci de m'avoir ramené à la maison. Et à chaque fois, je vous assure que l'action de grâce n'était plus juste une formule comme ça. Hein, Seigneur, je te dis merci pour la journée. Mais je réalisais réellement, c'est que c'était l'action de grâce. Action de grâce. Dire merci au Dieu, au Seigneur, dire merci à celui qui m'a ramené en vie. Et là, on mesure vraiment ce que c'est. Il y a des circonstances comme ça qu'on vit, hein, quotidiennement. Et on se rend compte que oui, Seigneur, vraiment merci. de m'avoir épargné par rapport à telle ou telle autre chose. Merci Seigneur, il y a tellement de choses qu'on entend par la télévision et tout ça. On est épargné. Il y a un pasteur qui disait que je vous assure que si on ne rendait pas grâce au Seigneur pour notre repas, il y en a beaucoup qui mourraient. Parce qu'il y a tellement de choses bizarres qu'on emploie aujourd'hui dans la culture maraîchère. Il y a tellement de choses, tellement de produits. Qui sait si notre corps est capable de le supporter? Et je vous assure qu'on a vraiment besoin d'abonder en action de grâce. Alléluia. Et pour cela, ce serait bien que chacun lise chez soi le livre de Thessaloniciens. Ça, il y a vraiment plein d'actions de grâce dans ce livre. Et on se rend compte finalement que la louange, c'est plus un acte religieux. C'est plus une formule, c'est pas un récital, c'est pas quelque chose qu'on prépare et après avoir fait les répétitions, dimanche on vient tous ensemble, allez c'est parti, top chrono. Non, c'est plus un acte religieux. Ça va plus loin que ça. C'est l'expression de notre cœur là. Là c'est de cœur à cœur avec notre Seigneur. Alléluia. C'est un acte qui est exprimé, qui est confessé. Alléluia. Et quand on voit dans Apocalypse, pour faire tout le Nouveau Testament, on se rend compte du caractère éternel de la louange. Et il y a quelque chose qui se passe dans Apocalypse quand Jean se trouve en face de cet ange. Tellement il y a la gloire de Dieu qui resplendit. Il est là tout ébahi, il se prosterne et l'ange lui dit non. Tu n'as pas besoin de m'adorer moi, adore Dieu. Adore Dieu. Et c'est souvent quand la louange se passe tellement bien, on est dans un état vraiment exceptionnel. Oh, quand on sort du culte, on se dit que oh, la louange était bien ce matin. La louange vraiment, oh, les musiciens étaient formidables, ils ont bien joué, tout ça, l'assemblée a suivi. On oublie en fait. Ce qu'on devrait se dire, c'est que là ce matin, vraiment, mon cœur s'est exprimé devant le Seigneur. C'est comme ça qu'on devrait parler. Pas se dire que la louange était super, parce que là, on ne loue plus le Seigneur, on loue la louange. Hein? On loue la louange, on loue les musiciens, ils sont bien, vraiment. Victor joue bien au synthé, tout ça. C'était bien. Non, c'est le Seigneur qui est digne de recevoir notre louange. Et il faut que ça soit ça qui reste dans notre esprit. Pas les musiciens, pas les chantres, non. Et je vous assure que faites le test. Quand vous conduisez la louange, pour savoir vraiment que là, vous vous êtes effacé, vous, c'est ce que les gens viennent vous dire à la fin. Quand, c'est différent quand quelqu'un vient vous dire que vraiment, ce matin, je suis arrivé, mais vraiment chargé. Et pendant les temps de louange et d'adoration, quelque chose s'est passé. C'est pas la même chose que quand on vient te dire que oh, vraiment, tu as une belle voix, ça. Ou bien, tu joues bien, oh, mais vraiment, tu joues bien du synthé, hein? Vraiment. Ils sont concentrés là. C'est différent. Et nous, on peut favoriser ça d'une certaine manière. Quand on conduit la louange, effaçons-nous le plus possible. Faites en sorte que les gens se retrouvent face à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Ça commence dans notre vie. Quand on est soumis au Seigneur, je vous assure, comme la Bible dit, l'onction coule sur la tête. Après, c'est sur la barbe d'Aaron. Hein? Après, c'est sur le pan, hein, du vêtement. Et c'est comme ça, quand ça commence dans notre vie, quand on sait vraiment se soumettre au Seigneur, quand on se lève, je vous assure que toutes les paroles qu'on confesse portent du fruit. C'est important. Maintenant, on ne va pas, vous savez, il y a aussi dans l'église des gens qui sont vraiment très concentrés là. Il est tout le temps en train d'examiner les chants, les musiciens. C'est comme s'il avait un cahier chez lui qu'en entrant là, il a fait tel truc aujourd'hui, il a joué faux à ce niveau. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Hein? Mais ce sont des gens qui doivent aussi entrer dans ces temps de louange et d'adoration. Et ça, c'est le combat du chantre. C'est important. C'est nous qui devons amener cette onction à vraiment être répandue sur tout le peuple de Dieu. Alléluia. Et donc, comme on pouvait le voir aujourd'hui, la nouvelle alliance met l'accent sur ce cœur. Le cœur d'adorateur, l'attitude quand on se présente devant notre Dieu. Il faut que les gens connaissent Dieu. Il faut que les gens aillent plus loin. Ça n'a rien à voir avec tous les services qu'on peut rendre au Seigneur. Non, c'est plus important. C'est plus important. Adorer, louer Dieu, ça c'est plus important que tout ce qu'on peut faire dans l'église. Et ça, quand notre relation avec le Seigneur est au top à ce niveau, je vous assure qu'il y a des choses qu'on comprend facilement après. Ça, c'est important. Alléluia. On va lire ensemble Apocalypse 11. Apocalypse 11, à partir du premier verset. La Bible déclare ceci. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. La première fois que j'ai lu ce passage, je vous assure, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà lu toute la Bible entière, je n'avais jamais fait attention à ça. Lève-toi, mesure le temple et ceux qui y adorent. Je me demandais, ah, comment le Seigneur peut mesurer les adorateurs? Mais à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, le Seigneur est là et il nous regarde, on est devant lui. Et il se dit, ah, il a fait 15 minutes dans l'adoration aujourd'hui. Demain, 10 minutes. Après demain, c'est entre 17 et 18, on ne sait plus trop et tout. Hein? Le Seigneur envoie carrément un ange. Il est mandaté pour mesurer le temple et mesurer les adorateurs. C'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire que chaque jour, notre adoration doit aller grandissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je passais 10 minutes dans la présence de Dieu, et quand je dis 10 minutes dans la présence de Dieu, j'enlève les sujets de prière, hein, parce qu'on a toujours un truc à demander au Seigneur, nous. J'enlève tous ces sujets de prière là. Mais vraiment 10 minutes là en train de dire, Seigneur, tu es merveilleux, tu es le grand Dieu, tu es souverain. Là, passer du temps là, rien que face à face au Seigneur et se dire, vraiment tu es beau parmi tous les dieux. Tu es le vrai Dieu. C'est ça l'adoration. Il faut s'aménager des temps comme ça, se dire, même si là, l'après-midi, j'ai pas beaucoup de temps, je vais passer 10 minutes. Je vais faire un exercice spirituel, comme dit l'apôtre Paul. Je vais adorer le Seigneur pendant 10 minutes. Lui, rien demander. Hein, Seigneur, je te prie pour l'église où j'ai la gorge qui est vraiment, tu sais, j'ai beaucoup chanté à la biennale et tout ça, vraiment, la gorge, ça est... Non, non, non. 10 minutes seulement pour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es souverain, tu es grand, tu es majestueux. Je vous assure, si vous n'avez pas le temps le matin pour ceux qui travaillent, je vous dis, même sur votre lieu de travail, vous êtes capable d'être en connexion avec le Seigneur. Même pendant que vous travaillez, aménagez-vous un temps pour votre Seigneur, pour lui dire, Seigneur, c'est vrai, tu es réellement le Dieu saint, le véritable, le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui est saint, qui est, qui était et qui revient. Vous voyez bien dans ce passage, il dit à l'ange de ne pas mesurer le parvis. Et quand on verra un peu l'aménagement du tabernacle, le parvis, c'était là où il y avait le peuple. Et là, le Seigneur lui dit, ne mesure pas le parvis. Parce que ceux qui veulent toujours rester là, ils viennent à l'église pendant les temps d'adoration. Au lieu d'adorer le Seigneur, ils sont en train d'examiner tout ce qui se passe. Cela laisse-les de côté. Ne les mesure pas. Mesure ceux qui sont là, face à moi. Mesure-les. C'est ça, ce qui reste dans le parvis. Aujourd'hui, on ne va pas aménager le tabernacle, c'est-à-dire le parvis, lieu saint, lieu très saint. Donc, on va voir qui reste par derrière. Tout le monde va s'avancer, ça c'est sûr quand même. Il ne faut pas que les gens me critiquent quand même. Hein? Tout le monde va s'avancer. Non, ce n'est pas ça. Mais je vous assure, sur le plan spirituel, il y en a qui restent dans le parvis. Ils viennent à l'église tellement chargés, hein? Ils sont tellement fatigués par les soucis, ils ne préparent pas le culte. Non, 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 non. Ils viennent pour recevoir, recevoir et recevoir. Regardez bien quand ils prient le matin. On va commencer le culte. C'est, Seigneur, nous te disons merci. Hein? Merci parce que tu vas nous donner ce que tu as reçu. Oui, mais toi, tu es venu pour quoi? Recevoir simplement. Le Seigneur est descendu pour recevoir lui aussi. Donc, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Et cette catégorie de personnes-là, le Seigneur dit non, cela ne mesure pas. Ceux-là qui, pendant le culte, sont en train de critiquer. Oh, t'as vu ce que l'ancien a fait, là? Non, c'est pas bien. Ah, je pense, à la fin du culte, il faut que je voie le pasteur pour qu'il corrige ça quand même. Hein? Pendant ce temps, il y en a qui sont loin dans la présence de Dieu. Vous allez encore plus, il y a un autre là qui se dit que, ah, vraiment, le pasteur se lève déjà, l'adoration est encore. Donc là, lui, il est concentré sur les chantres, là. Hein? Et il est même au courant que le pasteur s'est déjà levé. Pendant ce temps, les adorateurs sont loin. Et c'est ça, hein, c'est ça la différence. Quand la Bible déclare, mesure le temple, mesure les adorateurs. Et à chaque fois que le Seigneur envoie un ange pour mesurer, Je prie que chacun de nous en soit trouvé là, en train d'être mesuré. Il faut prier comme ça, Seigneur, fais que chaque jour l'ange me mesure. C'est-à-dire qu'au-delà donc de mes capacités, je veux quand même être parmi ceux qu'on mesure. Parce qu'il y a carrément une catégorie de personnes à qui il dit cela ne les mesure même pas. Ça vraiment c'est à négocier. Tu te dis Seigneur, non, ne les mesure pas. Dites-vous Seigneur, chaque jour je vais quand même faire partie de ceux-là que l'ange mesure. Et être plus loin dans mon adoration. Aller plus loin dans mon adoration. Alléluia. Donc quand on voit, on étudie un peu la Bible, hein, de la Genèse à l'Apocalypse, on se rend compte simplement que le ministère de la louange, c'est le ministère qui demeure. Hein? De même que Dieu est dès le commencement, la louange est dès le commencement. De même que le Seigneur n'a pas de fin, la louange n'a pas de fin. Et c'est le ministère qui demeure. Et je crois sincèrement que si ces principes sont connus, notre façon de louer le Seigneur va changer. Si ces principes sont enseignés à l'Église, la manière dont le peuple de Dieu loue le Seigneur va changer complètement. On ne va plus se tracasser de ce qui se passe à côté, à gauche, à droite. Quand quelqu'un vient en retard, il ouvre la porte. Il y en a qui ont encore même le temps de se retourner pour regarder. Non, tout ça, on ne prendra plus compte de ça. Tellement on sera concentré sur notre louange et notre adoration. Alléluia. Et c'est ça, la Bible déclare que Dieu cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et je crois vraiment que l'Église qui va vraiment prendre... qui va étendre ses cordages, comme dit la Bible, dans ces temps qui sont les derniers, c'est cette église-là qui va prendre son envol dans la louange et l'adoration. Parce que Dieu siège là. Et quand il siège, il répand la bénédiction en abondance. Quand il siège, la prophétie est libérée. Dieu libère la vision. Pour ta vie, pour ton église, Dieu libère. C'est là, dans ces temps d'adoration. Pourquoi? Parce que le Seigneur est manifeste. Sa présence nous inonde. Plus on loue, plus on adore le Seigneur, plus il est conscient de ce qui se passe, plus il descend. Et on verra quand on va parler de la direction de la louange, ce qui se passe vraiment. C'est pas que nous, il y a des anges, mais il y a des catégories d'anges dans la présence de Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. On rentre en contact avec des entités célestes. Il y a de grandes choses qui se passent pendant ces temps de louange et d'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Dieu est réellement grand et digne de louange. Que chaque jour notre prière soit de marcher dans ses fondements bibliques. Et notre louange, notre adoration vont changer. Notre manière de louer, notre cœur d'adorateur sera transformé. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de nous faire réaliser ces fondements bibliques de la louange et de l'adoration. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu et tu agis au milieu de nous, Seigneur. Et ton désir, Seigneur, c'est que nous sortions, Seigneur, de cette ignorance, Seigneur. Seigneur, maintenant que tu nous fais connaître ces choses, nous voulons changer dans notre façon de te louer. Nous voulons que notre cœur d'adorateur, Seigneur, s'exprime librement dans ta présence. Et nous voulons faire partie chaque jour de cette personne que cet ange, oh Dieu, mesure. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. J'aimerais que quelqu'un élève un cantique d'adoration. Nous allons adorer Dieu. Et un moment, qu'on adore le Seigneur ensemble. Alléluia, Seigneur. Nul n'est aussi saint que toi, Seigneur. Alléluia. Aucun homme n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, nul n'est aussi saint que le Seigneur.
Nul n'est aussi saint que le Seigneur. Il n'y a personne